Nous connaissons tous le fils prodigue de l'Ancien du Nouveau Testament. Mais il y en a un dans l'Ancien Testament, on ne l'appelle pas toujours le fils prodigue, mais il l'a été. Peut-être que vous pensez déjà à quelqu'un, mais Jacob conviendrait bien. Jacob, c'est quelqu'un qui a commencé dans une bonne famille, et puis qui a été faire son tour dans le monde, et par la grâce de Dieu est revenu. Vous savez, l'Ancien Testament, les récits parfois, si on les lit comme les récits, l'histoire d'un homme, la biographie d'un homme, on peut parfois être très déçu et même parfois choqué. Et quand on lit l'Ancien Testament et on lit ces récits de ces hommes comme l'histoire d'un homme, eh bien, ça décourage parfois. Mais j'aime bien, moi, lire la Bible et l'Ancien Testament comme les interventions de Dieu dans la vie des hommes. Et quand je vois cela comme Dieu qui agit dans les vies des hommes, je vois la grâce de Dieu, je vois la persévérance de Dieu, je vois l'amour de Dieu. Je suis encouragé parce que je dis, si il a intervenu dans la vie de ces hommes-là, il interviendra dans ma vie. Et je découvre Dieu plutôt que de découvrir la méchanceté de l'homme. Et Paul nous dit, hein, dans 1 Corinthiens, il nous dit, ces choses ont été écrites pour votre enseignement. Et donc ce matin, ce n'est pas, je sais, avec Jacob, vous connaissez certainement bien l'histoire de Jacob, il dit, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau de Jacob? Je ne sais pas qu'on ne va rien apprendre de Jacob. J'espère qu'on va apprendre quelque chose de Dieu, hein, et être rappelé de certaines choses, des interventions de Dieu dans la vie de Jacob et donc dans notre vie aussi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce petit livre de Osée. Osée, nous allons partir de là, nous allons prendre ce passage comme un tremplin. Mais Osée, chapitre 12, et les versets 4 et 5. Dieu est en train de parler au peuple d'Israël et il dit, vous savez, mes interventions dans votre vie, ça ressemble beaucoup à votre père Jacob. Et donc, dans les versets 4 et 5, et je lis à partir de la version seconde, mais j'espère que c'est toujours... J'ai comparé avec le texte que vous avez, et c'est le même message. Et donc, Osée, chapitre 12, et les versets 4 et 5, il dit, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. » Il lutta avec l'ange et fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. En quelques vers, un résumé de la vie de Jacob. Nous voyons... Déjà, dans ce premier vers, Jacob saisit son frère par le talon. Nous voyons l'état naturel de Jacob. Il dit, voilà le type d'homme dans la vie duquel j'ai intervenu. Lorsqu'il dit, dans sa vigueur, ou dans sa jeunesse, dans sa force, dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Dans sa jeunesse, il y a cette résistance à Dieu, où il prend sa propre vie en main. Il va faire ce qu'il a à faire, ce qu'il trouve bon à faire. C'est encore une tentation de la jeunesse, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, « Lutte avec l'ange et fut vainqueur. » Il pleura et lui adressa des supplications. Là, comme une contradiction. Il est vainqueur et en même temps, c'est lui qui plaide. Et je vois là ce combat intérieur. Extérieurement, il est fort, mais intérieurement, hein, c'est souvent, le message des adolescents. C'est aux parents, tu m'ennuies, tu m'embêtes, mais ne m'oublie pas. C'est une contradiction, mais aussi, même parmi les chrétiens, je crois, même dans notre adolescence spirituelle, c'est « Ah, Seigneur, chrétien, c'est dur et tout ça. » Mais en même temps, ne m'oublie pas. Ne me lâche pas. Et ensuite, je vois dans ces vers où Jacob, il dit « Jacob l'avait trouvé à Bethel, il l'avait trouvé, il l'avait rencontré, il l'avait croisé. » Mais il dit « C'est là que Dieu nous a parlé. » Et bien sûr, Bethel, vous vous souvenez certainement qu'il y passe deux fois. La première fois, il entend parler. La deuxième fois, il rencontre Dieu. Et c'est là où il y a un changement. Et c'est ça que nous voulons voir un peu ce matin. Bon, finalement, on est ensemble, on est frères et sœurs, on va partager ensemble, et on va réfléchir ensemble, et que le Seigneur se glorifie. Donc, premièrement, ce tempérament naturel, qui est naturel chez Jacob, mais naturel chez nous tous, mais les conditions de la naissance de Jacob, Isaac est marié depuis 20 ans, et son épouse, eh bien, pourtant, c'était Dieu qui avait dirigé, et c'était une histoire extraordinaire, comment il a trouvé son épouse, et elle est stérile. Tout comme Sarah l'avait été, et 20 ans d'attente, finalement, elle dit, mais Dieu, je veux un enfant. Après 20 ans, elle a des jumeaux. Des jumeaux, bon, ce n'étaient pas des jumeaux identiques, hein, de toute apparence, et même dans leur comportement et tout cela. L'un était certainement le plus fort, il paraissait le plus fort. Il était velu, et le cheveu roux, et puis il est né le premier. Et le second, petit, maigrichon, et une particularité, c'est qu'il tenait le talon de son frère à la naissance. Et d'où son nom, hein, Jacob. Bon, il y a un jeu de mots aussi, hein, avec ce Jacob et ce qui tient le talon, parce que ça veut dire tenir le talon et en même temps, ça veut dire le rusé. Hein. C'est une manière de parler d'une personne, il tient son talon. Ça veut dire qu'il est rusé. Alors, il y a un jeu de mots là, mais finalement, c'était descriptif de sa personne, même à sa naissance. Dieu avait déjà dit à sa mère, elle lui avait dit, tu sais, tu as deux enfants, bon, ils vont se battre, c'est sûr, mais c'est le second, le petit, et c'est lui que j'ai choisi. Et elle, sachant cela, hein, Rachel, sachant cela, aurait dû faire confiance à Dieu. Mais quelque part, elle a transmis quelque chose à son fils. Il a dit, écoute, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu te battes, parce que ça ne va pas venir tout seul. Tu es petit, tu es le deuxième, ça ne va pas venir, il faut que tu trouves quelque chose. Hein. Alors lui, va se servir justement de sa ruse, et il va trouver une occasion extraordinaire quand son frère sera affamé. Et il dit, écoute, le droit d'aînesse, ça ne nourrit pas. Et il va échanger contre un bol de lentilles. Par la suite, comme si ce n'était pas suffisant, parce que c'était quand même, vous savez, quand c'est l'œuvre de l'homme, on n'est pas rassuré. Quand c'est l'œuvre de Dieu, on est rassuré. Mais comme c'était son œuvre, il n'était pas rassuré. Et puis il a dit, mais bon, entre nous, j'ai le droit d'aînesse, mais papa, il n'a pas compris encore. Et quelque part, il ne faut pas que Ésaü ait la bénédiction. Et là, maman et le fils vont comploter ensemble. Mais c'est une question où on est en train de faire les choses par nos propres forces. Et dès qu'on essaye d'accomplir l'œuvre de Dieu, même l'œuvre de Dieu, hein, l'intention de Dieu, hein, il n'est pas en train de demander quelque chose que Dieu ne veut pas pour lui, il est en train d'essayer d'obtenir ce que Dieu a pour lui. Mais quand on le fait par nos propres forces, on engendre toujours des problèmes. lorsque c'est Dieu qui le fait dans nos vies, eh bien, Dieu aplanit. Alors, il va obtenir ce qu'il veut, mais il va se créer une situation qu'il ne pourra pas vivre et il faudra fuir. Et cette mère, elle devra voir son fils préféré partir. Ça, c'est le type de personne avec qui on a affaire. C'est ce type de personne qui est en train de partir, de quitter la terre promise, qui était promise à son grand-père, la terre qu'il ne devait jamais quitter. Il va partir sans savoir ce qui l'attend. Mais c'est là où je vois la grâce de Dieu. Mais Dieu veille. Dieu veille. Il s'est engagé vis-à-vis d'Abraham, il s'est engagé vis-à-vis d'Isaac, et Dieu veille. Et vous savez que Jacob, avec le cœur qu'il a, il est en train de partir vers la famille. Une nuit, il est là, couché, il a un songe. Et ce n'est pas parce qu'il dormait sur une pierre qu'il a eu le songe, c'est parce que Dieu voulait lui dire, tu sais, je suis là, ne m'ignore pas. Et on a dans le Genèse, et c'est extraordinaire, et je vous invite à regarder avec moi là, dans Genèse chapitre 28, le songe est merveilleux. Dieu fait une promesse dans ce songe. Dieu dit, Jacob, je sais que tu n'es pas digne, mais je t'assure que j'ai des bons projets pour toi. Et je vais prendre soin de toi. Et je vais te garder. Et je vais te bénir. Et Jacob entend tout cela. Il entend. Je ne sais pas s'il écoute, mais il entend. Il en fera référence plus tard, donc il l'a vraiment entendu. Mais ce qui est extraordinaire, bon, il se réveille, il dit, l'Éternel est là, je ne le savais pas. Et donc, il prend un peu d'huile, et il oint la pierre sur laquelle il s'est reposé, et puis voilà, ça, il donne le nom de Bethel, maison de Dieu. Ici, c'est où Dieu habite. Et puis, il prend ça pas plus sérieusement que ça. Et regardez l'engagement qu'il prend au verset 20. Il dit, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, que des choses matérielles. Hein, » et c'est toujours « si ». Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Une prière égocentrique. On ne peut pas faire mieux. Strictement matériel, si Dieu prend soin de moi, si Dieu me dit, si Dieu, moi je vais faire ce que j'ai à faire, et si lui s'occupe de moi quand même, et s'il lui pourvoit à tout, et ça va durer 20 ans, hein, c'est ce contrat-là avec Dieu, cet engagement, parce qu'il n'y a que 20 ans plus tard qu'il va venir parler à Dieu et dire, Dieu, d'accord, tu es mon Dieu. Et pendant tout ce temps, et Dieu sachant qu'il prierait de cette manière, sachant qu'il avait de telles pensées, Dieu lui a quand même dit, tu sais, Jacob, je serai avec toi, ne l'oublie jamais. La grâce de Dieu. Un homme pareil dit, écoute, bon débarras. Vous n'avez jamais rencontré des chrétiens où vous avez pensé bon débarras? Ne répondez pas. Mais vous savez, Dieu ne dit pas cela. Et Dieu est là, il lui parle, il sait qu'il n'a aucune intention de vivre pour lui, il a pris ce qu'il avait à prendre et il va se débrouiller. Et Dieu le laisse partir. Il part chez Laban et il rencontre On dit, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Il a trouvé quelqu'un comme lui. Vous avez déjà vu des colonies de vacances, les petits gamins qui font des bêtises, ils se retrouvent très vite, même s'ils ne se connaissaient pas avant. Ils se retrouvent très vite le premier soir et ça y est, ils sont ensemble. C'est extraordinaire. Mais là, ils se retrouvent avec Laban. Et puis là, c'est l'un contre l'autre. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Mais arrive un point au bout de 20 ans, eh bien ces deux-là, ce n'est plus le grand amour. Autant il l'a bien reçu au début, mais au bout de 20 ans, Jacob dit à ses épouses, il dit, vous savez, j'ai comme l'impression que Laban, il n'est plus pareil avec moi. Tu ne devrais pas être étonné, mais bon, en tout cas, il est là. Et il dit à ses épouses, vous savez, Dieu me dit, l'Éternel me dit de rentrer. Alors je vais rentrer. Je vais prendre ce qui est à moi. Et là, encore une fois, on voit, il a pris, mais en dépouillant Laban. Quand c'est l'œuvre de l'homme qui prend, il dépouille quelqu'un. Quand c'est Dieu qui bénit, il ne dépouille personne. Tout est humain là, mais Dieu veille. Et Dieu dit, Jacob, tu rentres. Et Jacob rassemble, essaye de trouver un moment, et puis oups, il échappe. Quand Laban est à 3 jours de marche, et lui, il va disparaître. Il prend ses épouses, ses enfants, son bétail, et il commence à rentrer. Mais il n'est pas très rassuré dans tout cela. Au chapitre 32 de Genèse, il est en train de partir, au verset 9, il dit, Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, il ne dit pas mon Dieu. » qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance et je te fais du bien. Là, il fait référence à Bethel, ce qu'il a entendu à Bethel. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. C'est toujours... Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait compter. Il est là en train de négocier avec Dieu encore une fois. Il dit, voilà Dieu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu rassembler, voilà tout ça. Et n'oublie pas mon père, mon grand-père, et tu sais, et puis en plus, tu te souviens, tu m'as promis que tu prendrais soin de moi, mais j'ai peur. Voilà, j'ai conçu un truc, là, donc j'ai partagé mes biens, et tout ça, mais fais que ça réussisse. Vous avez déjà entendu des chrétiens prier comme ça? Et peut-être que nous avons nous-mêmes prié comme ça, à un certain moment. C'est nous qui pondons les œufs et c'est Dieu qui doit les couver. Combien de fois nous l'avons fait? Des projets. C'est nous qui avons réfléchi, notre expérience, de bonnes intentions. Dieu, tu dois aimer ce projet-là. Veille le bénir. Et on prie de cette manière-là. Jacob, il est là, mais il n'est pas entièrement soumis. Ce n'est pas une question, Dieu, que veux-tu? Mais c'est une question, écoute, prends soin de moi. C'est encore centré sur lui-même. Il part, il envoie. Remarquez, je ne vais pas lire tout le récit, mais vous voyez comment il commence à envoyer les troupeaux. Un troupeau, puis ensuite il attend un petit peu, puis encore un autre troupeau à la rencontre d'Ésaü, et puis il met tout ça en tampon. Et son but, c'est un peu religieux. Après, c'est la femme moins aimée qui passe en première. Après, c'est celle qu'il aime. Et après, c'est lui tout dernier. C'est pas très gentleman, hein, comme on dit. Et il voit tout le monde devant lui. Et puis il dit, Dieu béni, hein, j'ai fait quelque chose, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant c'est à toi. Mais j'ai comme l'impression, il y a quand même un doute au fond de lui, ça ne suffit pas. Hein, parce qu'il avait envoyé du monde vers Ésaü pour essayer de le calmer, et ils sont revenus en disant, Ésaü vient avec une troupe, 500 hommes. Ça ne le rassure pas. Et alors, donc, c'est là où il se tourne vers Dieu, n'est-ce pas caractéristique des enfants de Dieu ou du monde. Quand on ne sait plus où regarder, on ne peut que lever les yeux, alors on s'adresse à Dieu. Et c'est là, alors qu'il a envoyé tout le monde, tous ont traversé le Jabbok, et lui, il est encore de ce côté-ci, il est sur le point de traverser, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'ange. Et il y a une lutte qui se fait là. Et c'est là où se passe, extérieurement, il est vainqueur, mais au-dedans de lui, il se rend compte que cet ange, ce n'est pas n'importe qui, et j'en ai besoin. Et il s'y agrippe. Et l'ange, qui vient de la part de Dieu, cet homme, non pas extérieur, mais il vient de la part de Dieu, et Jacob, il a dit, j'ai peur seul, j'ai peur. Reste avec moi, ne me laisse pas. Bénis-moi, rassure-moi, garantis que ça va bien terminer. Et l'ange le frappe, déjà pour lui dire, tu as vaincu, mais en fait tu n'as pas vaincu. Hein. Déjà, mets-toi à ta place, il va boiter dorénavant, il ne pourra pas oublier cette nuit-là. Mais aussi, il dit, tu sais, Dieu a un projet pour toi. Tu sais, la grâce de Dieu est encore là. Parce que toi, tu seras Israël. C'est extraordinaire. Je vois la grâce de Dieu qui est là, alors qu'on n'est pas encore. Et on est encore. Et c'est ça qui me rassure, même dans le ministère. On se dit, on n'est pas à la hauteur d'être serviteur. Et pourtant, il se sert de nous quand même. La grâce de Dieu intervient. Et là, Jacob n'est pas encore en état d'être utilisé pour bénir Dieu. Il n'est pas une gloire à Dieu. Mais Dieu déjà commence à agir et le prépare et dit, écoute, j'ai des projets pour toi. Et c'est là où je vois l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu. Il peut le faire et de chacun d'entre nous. Et nous avons tous un peu de Jacob en nous. Mais cela n'empêche pas Dieu d'agir et de vouloir faire des choses dans notre vie et nous utiliser. On n'est pas là pour exister. Si c'était juste une question d'exister, eh bien, il nous aurait pris dans la gloire. Il dit, si je vous laisse dans le monde, c'est pour que vous soyez des témoins, pour que vous me représentiez. Le monde n'a aucun moyen de voir Dieu, sinon à travers vous maintenant. Et il y a cette lutte intérieure et cette parole de Jacob, il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et en même temps, il ne sait pas ce qu'il demande. Et en même temps, il n'est pas tout à fait prêt. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui s'enclenche dans sa vie. Parce que lorsque je continue, donc j'arrive au chapitre 33. Et les premiers versets, je vois un début de changement. Il nous dit au verset 1, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. J'avais dit 500 tout à l'heure, hein, c'était 400. La Bible a raison, hein, c'est pas moi. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les servantes. Il plaça en tête les servantes et voilà son petit plan là. Mais regardez verset 3. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou, et il baisa et ils pleurèrent. Le plan est là, Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Jacob pendant la nuit. Parce que maintenant, il va, en boitant, il dépasse les épouses et il va au-devant. Et lui-même va à la rencontre d'Ésaü. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Ésaü a des projets jusque-là, des mauvaises intentions. Jacob certainement avait raison pour ses craintes. Elles étaient bien fondées. Mais quelque part, quand ces deux se voient, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où on voit l'œuvre de Dieu. Parce que tous les deux, Ésaü, tout d'un coup, il est bien disposé. Et Jacob, c'est cet homme qui est humilié et qui vient à sa rencontre. Quelque chose... Vous savez, quand Dieu fait l'œuvre, ça se passe autrement. Même avec les cœurs rebelles. Et même dans notre monde, parfois, on dit, avec ce monde, comment on va faire ? Je peux toujours faire confiance à Dieu, parce que Dieu a les moyens d'intervenir même dans les hommes rebelles. Ce n'est pas que leur cœur est changé, mais le comportement est changé. Leur disposition peut changer. Et puis on pourrait trouver des récits bibliques. Et là, c'est là le premier signe visible d'un changement dans le cœur de Jacob. Les deux frères s'embrassent. Bon, après, je continue. Ils sont un peu réconciliés. Ils sont prêts à rentrer ensemble. Mais Dieu n'a pas fini avec Jacob. On va continuer avec Jacob au chapitre 35. Et c'est là où Dieu dit à Jacob, au verset 1, « Lève-toi, monte à Bethel ». Il y a un principe biblique qui dit tu veux reprendre la vie avec le Seigneur, retourne à l'endroit où tu l'as quitté. Abraham devait revenir chaque fois au dernier autel de sa vie. Et là, Dieu lui dit retourne à Bethel. Et puis en plus, Bethel, c'est Beth-El, donc la maison de Dieu. Mais dans l'esprit de Jacob, oui, c'était Bethel, oui, c'est là où on trouve Dieu, c'est là où Dieu est, c'est là où on peut le rencontrer. Vous savez, c'est comme, et je peux en parler parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je crois avant la première semaine de ma vie, j'étais déjà à l'église, certainement que mes doigts me suffisent pour les dimanches que j'ai ratés dans ma vie. Mais ce n'est pas parce que j'ai été exposé à Bethel, à l'enseignement de Dieu, à la maison de Dieu, ce n'est pas pour ça que mon cœur est changé. J'ai dû quelque part reconnaître que mon cœur était un cœur de Jacob. Et que j'ai dû. Et puis certaines choses, je ne les perpète pas parce que je n'avais pas envie, mais c'est parce que je n'ai pas osé. Ou parce que mon père, il avait des yeux, il voyait tout. Il voyait l'intention arriver avant l'acte. Et puis lui, il nous élevait à l'ancienne méthode. Hein, pas si mauvaise. En tous les cas, ça m'a rendu service. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu un songe à Bethel que le cœur est transformé. Ce n'est pas parce que j'ai entendu la parole, parce que je suis né, comme on dit parfois, j'ai lu l'évangile dans mon biberon. Mais ce n'est pas pour ça que je suis sauvé. Et là, Dieu lui dit, reviens à Bethel. Et il revient à Bethel, et là, il y a quand même quelque chose. Parce que là, Jacob se prépare pour arriver à Bethel. Verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, car là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et regardez au verset 7, il bâtit un autel et il l'appela El Bethel. Le Dieu de Bethel. Et c'est ça qu'il devait. Et c'est là où la réconciliation, la transformation est totale. C'est pas seulement je sais où se trouve Bethel, c'est que je connais le Dieu de Bethel. Et c'est là, et si vous aviez voulu un titre à notre étude, j'aurais dit « De Bethel à El Bethel ». De la maison de Dieu au Dieu de Bethel. Et c'est le trajet que nous devons tous avoir. C'est oui, je suis, j'ai entendu, l'enseignement, je l'ai reçu. Mais maintenant, ce que je veux, c'est connaître Dieu, connaître celui qui est du lieu, celui duquel le lieu tire son nom. C'est pas, l'importance, ce n'était pas ce rocher qui avait été loin, l'importance, c'était le Dieu qui avait parlé cette nuit-là. Et c'est dommage qu'il y avait eu 20 ans entre ces deux, tant de temps perdu. Et peut-être que aussi dans nos vies, ben, on disait, oui, je me souviens, peut-être vous n'avez pas eu 20 ans, mais peut-être il y a des moments perdus où vraiment j'étais pas. Mais heureusement, grâce, Dieu, dans sa grâce, a persévéré. Dieu, dans sa patience, a su me parler. Dieu a su coordonner les événements autour de moi pour me ramener à lui. Et je vois la grâce de Dieu. Puis certains, peut-être d'entre nous, avons des enfants qui sont égarés maintenant. Et comment être encouragé? Eh bien, si Dieu peut intervenir chez Jacob, il peut intervenir chez Paul, Lucie et Jean, hein. Et nous devons croire. Peut-être qu'il a connu Bethel, mais Père Céleste, fais ce que tu as à faire pour qu'il revienne et rencontre El Bethel, le Dieu de Bethel. C'est ce que je veux pour moi-même, c'est ce que je veux pour mes bien-aimés, c'est ce que je veux pour le monde qui m'entoure. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais connu Bethel, mais ils peuvent toujours venir aussi. Le Seigneur a dit, j'ai des brebis de cette bergerie, puis j'ai d'autres brebis. Et qu'est-ce que je vais faire d'elles? Eh bien, il y aura un troupeau et un seul berger. Et c'est là que l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé avec Osée. Je voudrais retourner à Osée maintenant. Osée, chapitre 12. Et je veux lire les versets suivants. Alors, Daniel Osée, chapitre 12. Alors, nous avions lu jusqu'au verset 5. Je vais lire les versets 6 et 7. La suite est « L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Voilà ce que Dieu disait. Dieu dit « Israël, tu es égaré. Tu t'es comporté comme Jacob. Vous savez comment ça avait terminé avec Jacob. Écoute, je veux la... Ça va se terminer pareillement avec vous aussi. Vous qui aviez le cou raide, eh bien, je vous ramènerai. Et dit, je veux que tu reviennes. Dieu ne perd pas espoir. Et si Dieu ne perd pas espoir, nous n'avons pas à désespérer. Et nous devons faire confiance dans notre Dieu. C'est pour ça que ces passages, Jacob, oh, j'en connais plein comme lui. Mais un Dieu comme celui qui est intervenu dans la vie de Jacob, j'en connais qu'un seul. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui nous est présenté là. Et c'est lui qui peut faire la différence. Prions. Père Céleste, Jacob, l'histoire de Jacob nous rassure parce que nous avons un peu de Jacob en nous. Mais ce qui a fait la différence chez Jacob, c'est ton intervention. Ta grâce, ta persévérance. Et même après 20 ans, tu n'as pas relâché. Tu étais toujours là. Et si, sans avoir un changement de cœur, même s'il s'adressait à toi, tu répondais. Il a dû goûter à certaines conséquences de ses choix, mais tu n'as pas permis qu'il y ait quelque chose d'irréversible. Et tu l'as amené et tu as accompli ton plan dans sa vie. Et par la suite, dans le livre, dans l'Ancien Testament, eh bien, tu t'identifieras au peuple en disant « Je suis le Dieu de Jacob ». Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu peux faire. Et nous n'avons pas grand-chose à t'offrir et nous ne sommes pas extraordinaires. Mais Seigneur, si tu peux agir dans nos vies de manière à ce que dans nos communautés, eh bien les gens puissent dire le Dieu de Steve, là, c'est le vrai. Hein. Qu'il te reçoive ou pas, mais qu'il sache que c'est toi le vrai. Tout comme plus tard, c'est le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est extraordinaire comment tu t'identifies à des hommes qui sont fidèles. Seigneur, c'est trop d'honneur pour nous, mais c'est un privilège de pouvoir te représenter. Donne-nous l'opportunité de pouvoir bien le faire. Seigneur, tu connais chacun, tu connais son besoin, tu sais quels sont les fardeaux qu'il porte. Seigneur, par ton esprit, apporte à chacun ce dont il a besoin pour cette semaine et que tu en reçoives toute la gloire. C'est au nom de ton bien-aimé Fils et notre bien-aimé Sauveur et Seigneur que nous prions. Amen.
Amen.